Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le fondateur de l'Arche, Jean Vanier, était reçu ce vendredi par le pape François. 50 ans après la naissance de la première communauté, l'association est présente aujourd'hui dans 39 pays, avec pour mission de faire connaître le don des personnes handicapées à travers une vie partagée. Entretien avec Jean Vanier dès le début de cette émission. Les Français se préparent à voter dimanche pour un premier tour des municipales. Le Secours catholique s'est mobilisé pour faire entendre la voix des plus démunis. Éclairage dans quelques instants. Vous entendrez ensuite le témoignage d'un évêque du Guatemala, l'un des pays les plus pauvres au monde. Le cardinal Sara vient d'achever un déplacement dans le pays. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François a reçu ce vendredi matin en audience le fondateur de l'Arche, association qui a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée. En 1964, Jean Vanier accueillait deux personnes handicapées mentales dans une maison de l'Oise en France. Ainsi naissait la première communauté. 50 ans plus tard, l'Arche est présente dans 39 pays sur les 5 continents et regroupe 146 communautés constituées de plusieurs foyers d'hébergement et d'ateliers de travail. Chaque communauté allie trois dimensions, communautaire, professionnelle et spirituelle. L'objectif est d'associer tous les membres dans des relations interpersonnelles qui dépassent la seule relation d'aide et de mettre en évidence l'importance et le don des personnes ayant un handicap pour l'ensemble de notre société. Par cette vie partagée, par l'expérience de la relation réciproque et vraie, c'est une nouvelle vision de l'être humain pris dans son intégralité que l'Arche entend proposer. Jean Vanier, qu'Antonino Gallofaro a interrogé avant sa rencontre avec le pape, s'attarde sur l'évolution ces 50 dernières années du rapport entre la société et les personnes handicapées.
Il y a certainement des éléments qui ont progressé. On peut entrer plus facilement dans les églises pour des gens qui ne marchent pas. Mais d'autre part aussi, il y a l'avortement qui prend une place énorme. Et par exemple, une jeune femme que je connais vient de découvrir par l'échographie que son enfant aura un réel handicap physique et mental. Et la première chose que le médecin dit, mais vous pouvez avoir un IVG, c'est d'entrer dans les mœurs. Pour elle, il n'y avait pas question. Mais quand on dit est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien, sous un angle, les personnes avec un handicap mental qui ont une réelle capacité sont peut-être aidées. Il reste que pour beaucoup de personnes, ça gêne.
Et il y a aujourd'hui de nouvelles formes de handicap.
Je dirais la même chose maintenant avec la vieillesse. Nous entrons dans une époque très particulière, aujourd'hui ou ces temps-ci, où le nombre de gens faibles devient beaucoup plus grand que le nombre de gens actifs qui peuvent payer pour les faibles. Donc nous avons dans notre monde maintenant un pourcentage important de gens qui ont Alzheimer. Alors nous découvrons la même chose où nous nous disons que en vivant avec les personnes avec un handicap, il nous apprend que l'essentiel, c'est la relation, c'est l'écoute, c'est le respect profond, c'est aimer. Je dirais que c'est la même chose pour ceux qui ont Alzheimer. Pour beaucoup de gens, ils ont l'impression que la personne est partie. Mais elle n'est pas partie. Elle est là cachée. Et ça implique de prendre du temps pour créer la relation, tenir la main. Beaucoup de tendresse, il faut beaucoup de tendresse. Alors, nous sommes dans ce monde où le nombre de fragiles augmente.
Le regard de la société sur ces personnes n'a pas vraiment changé.
La réalité a changé et n'a pas changé. Nous avons des para-olympiques. Et c'est super que des gens qui n'ont qu'une jambe puissent gagner des prix, et ça c'est super. Mais le problème n'est pas simplement qu'il y en a quelques-uns qui doivent gagner dans des courses, mais il y a une masse d'hommes et des femmes fragiles, humiliés, mis de côté et maintenant aujourd'hui avortés.
Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, un témoignage que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. À l'occasion, ce vendredi, de la journée mondiale de la trisomie 21, une campagne intitulée « Chère future maman » a été lancée sur Internet, financée par une dizaine d'organismes en Europe, parmi lesquels la Fondation Jérôme Lejeune. Son principal volet est une vidéo dans laquelle des personnes trisomiques rassurent une femme enceinte qui vient d'apprendre que son bébé est atteint de la maladie. D'après la Fondation, ce film a déjà été visionné plus de 1,7 million de fois. Le président maltais était ce vendredi au Vatican. Jorge Abella était reçu en audience par le pape François, puis par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, et le secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Dans un communiqué, le bureau de presse du Saint-Siège précise que lors de cette rencontre, la contribution de Malte au sein de l'Union européenne et le phénomène des migrations vers l'Europe ont été abordés. Les discussions ont également permis de rappeler les profondes traces du christianisme dans l'histoire, la culture et la vie du peuple maltais et de mettre l'accent sur les bonnes relations entre Malte et le Saint-Siège. Les deux parties ont notamment évoqué les visites pastorales de Jean-Paul II et Benoît XVI, mais aussi les accords conclus entre le Saint-Siège et Malte en vue d'une fructueuse coopération au service du bien commun. Le pape François rencontrera lundi prochain l'évêque orthodoxe Mgr Agathangelos, directeur général de l'Apostoliki Diakonia, qui au nom du Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Grèce s'occupe de la promotion des activités pastorales, culturelles et éditoriales en Grèce. Mgr Agathangelos sera accompagné par un groupe de collaborateurs. Durant son séjour à Rome, la délégation se rendra en la basilique Saint-Pierre et la basilique de Saint-Paul hors les murs pour y vénérer les tombeaux des saints Pierre et Paul, et elle rencontrera notamment le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Les périphéries humaines et existentielles à la lumière de l'Évangile, c'est le thème de la journée d'études et de réflexion qui était organisée à Rome ce vendredi par la communauté de Sant'Egidio. Une rencontre dans le but d'approfondir la collaboration entre orthodoxes et catholiques sur la voie de la charité. Parmi les participants, des représentants de l'Église orthodoxe russe de Moscou. Le père Angelo Romano, membre de la communauté Sant'Egidio, a assisté à leur prise de parole. Il rappelle combien cette présence orthodoxe aux côtés des pauvres s'enracine dans l'histoire.
Même dans la période plus difficile pour l'Église orthodoxe russe, donc dans la période de la persécution communiste, il y a eu toujours des figures, des personnalités religieuses ou laïques qui ont choisi d'être présents, avec beaucoup de risques, parce qu'il y a aussi des martyrs entre eux, d'être présents dans le monde de la périphérie, de la banlieue, et surtout, je dirais, de la pauvreté, avec cet esprit de gratuité des services typiques du monde chrétien. Ça, c'est la troisième rencontre qu'on fait dédiée à la relation entre les chrétiens et les pauvres. Dans les premières rencontres qu'on a fait dans la diocèse de Terni, était présent l'actuel patriarcat de Moscou, Kirill, qui à l'époque, clairement, était un métropolite. Et pour dire que c'est une longue histoire de réflexion commune qui vraiment est très enrichissante, parce qu'on va au-delà des visions superficielles des expériences des uns et des autres, et le dialogue, l'écoute est utile pour découvrir les trésors qui sont cachés dans l'histoire de chaque Église et sont des trésors et qui peuvent humaniser notre temps.
Des propos recueillis par notre consœur du programme italien, Elvira Ragosta. Nous vous en en parlions dans notre précédente émission, les Français sont appelés à se rendre aux urnes dimanche prochain pour le premier tour des municipales. Au-delà de l'enjeu proprement politique, ce scrutin est l'occasion d'aborder les préoccupations quotidiennes des électeurs. Les plus pauvres notamment sont confrontés aux problèmes du logement, de la mobilité et de la précarité. Pour faire entendre leur voix et leurs revendications, le Secours catholique Caritas France a lancé une vaste consultation via ses délégations diocésaines. Chacune a travaillé avec les personnes en difficulté qu'elle rencontre sur le terrain tout au long de l'année. Le Secours catholique leur a demandé de s'exprimer sur leurs conditions de vie et de formuler des propositions aux candidats aux municipales. Mais ces candidats ont-ils bien conscience de tous ces problèmes ? Pas sûr, selon Philippe Le Filleul, responsable de la mobilisation citoyenne au Secours catholique.
On a fait une enquête avec Assofres là, il n'y a pas très longtemps, et malheureusement, elle démontre que, effectivement, les pauvretés, quand on interroge les maires, semblent à la fois une question prioritaire, et en même temps, ils ont du mal à reconnaître que ces pauvretés existent de façon importante sur leur propre commune, même si, dans le même temps, dans une large majorité d'entre eux, par rapport à la précédente enquête qu'on avait faite en 2008, ils reconnaissent tous qu'il y a une évolution importante des pauvretés. Mais si vous voulez, ils ont un peu du mal, on a le sentiment, à déconnecter à la fois leur vision nationale de la pauvreté, où ils disent, ben oui, effectivement, on est confronté à une plus grande précarité aujourd'hui en France, et en même temps, quand on les interroge à l'échelle de leur commune, cette forte augmentation de la pauvreté que nous-mêmes on peut ressentir, alors c'est pas tellement en nombre, c'est sur le fait que c'est une pauvreté qui s'enracine, c'est-à-dire que les pauvres restent toujours aussi pauvres et ont de plus en plus de difficultés à avoir accès une fois de plus au logement ou à l'emploi. Voilà, donc ces pauvretés à l'échelon local, on a l'impression que les maires les voient moins que quand ils en parlent à l'échelon national.
Quand on parle pauvreté, on pense tout d'abord aux villes, aux banlieues déshéritées. La pauvreté est-elle vraiment limitée aux seules aires urbaines ?
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la pauvreté est très diffuse, à tel point que ce qu'on note également, c'est qu'il y a un nombre croissant aujourd'hui de situations de pauvreté accueillies et accompagnées par le Secours catholique, y compris en milieu rural, dans des zones de campagne où, jusqu'à présent, on avait le sentiment que finalement, le système D et l'entraide fonctionnait plutôt bien et permettait aux gens, même avec des toutes petites ressources, de s'en sortir. Premier point. Deuxième point, on note aussi, et ça c'est pas un fait nouveau, c'est un constat, que la pauvreté en milieu rural est quelque chose qu'il est particulièrement difficile d'identifier parce que les gens n'en parlent pas. Il y a une espèce de réflexe de protection et d'autoprotection. On est pauvre, on galère, mais ça se dit pas trop par rapport aux voisins, etc. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, dans les professions d'exploitants agricoles. Mais dans le même temps, nous, on voit bien à travers nos équipes, y compris donc en milieu rural, que ces situations de pauvreté aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes. Et surtout, une fois de plus, elle s'enracine dans la durée. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à avoir des difficultés, il y a malheureusement beaucoup de chances qu'il en ait pendant un temps certain. Ça ne s'estompe pas, ça ne disparaît pas en quelques mois, quoi.
Le problème de la pauvreté est-il bien pris en compte par les politiques et notamment par le gouvernement ?
Le gouvernement actuel avait décidé, dès les premiers mois de la présidence de François Hollande, de se saisir à bras-le-corps de ce sujet-là, puisqu'il y a eu de mis en place, et on y a fortement participé, nous, Secours catholique, un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, avec un certain nombre d'objectifs très clairs sur divers domaines comme le logement, l'emploi, la formation, la santé, l'accessibilité bancaire, etc. Ça, c'est plutôt un bon point dans le camp du gouvernement actuel. Maintenant, la difficulté, c'est que au niveau local, aujourd'hui, il est certain que pour un certain nombre de villes, les moyens financiers ont été fortement réduits, qu'il y a des choix qui doivent se faire, et malheureusement, on a le sentiment qu'ils se font souvent sur le dos des personnes les plus précaires. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, cette gestion, j'allais dire, et ce poids de l'accompagnement et de la lutte contre la pauvreté est laissé de plus en plus souvent aux seuls acteurs associatifs comme le Secours catholique, mais aussi d'autres. Et donc, il y a, en particulier au niveau local, mais même au niveau des conseils généraux, dans un certain nombre de départements en France, un désengagement et une baisse des aides pour les personnes les plus en difficulté. Donc on tire aussi la sonnette d'alarme sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté doit rester une affaire de tous et en particulier au début une affaire de l'État et ne pas être simplement remis en termes de gestion et de résolution aux seules associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Philippe Le Filleul, interrogé par Xavier Sartre. Ce vendredi tandis que le cardinal Robert Sarah, président du conseil pontifical Coronum, achevait son voyage de 4 jours au Guatemala, un déplacement au cours duquel le cardinal Sarah a inauguré 19 maisons et une chapelle construite grâce aux dons faits par le pape après les calamités naturelles qui ont touché ce pays d'Amérique centrale à l'automne 2011. Le Guatemala est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique. Il est aussi l'un des plus touchés par les catastrophes naturelles, notamment les cyclones, qui amènent presque chaque année des pluies torrentielles qui provoquent à leur tour des inondations. Ce complexe, inauguré jeudi dernier, est donc un soutien concret aux populations déshéritées du pays. Les aléas climatiques viennent s'ajouter à une situation sociale et politique difficile, marquée par une grande pauvreté, touchant la majorité de la population. Nous en parlons avec Mgr Alvaro Ramazzini, évêque de Huehuetenango au Guatemala.
Guatemala est une société dove predomina.
Le Guatemala est une société où domine ce système économique néolibéral qui fait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Le Guatemala n'a connu dans toute son histoire que ce modèle économique, qui jusqu'à maintenant n'a engendré que marginalisation et exclusion, et davantage de pauvreté, spécialement parmi les indigènes qui sont paysans. Mais d'un point de vue religieux, je dirais que c'est un pays qui, malgré le fait que 98% de la population soit catholique, ne vit pas selon les principes de l'Évangile. Et cela, de mon point de vue d'évêque, c'est sérieux. Nous assistons là à une crise très très profonde du fait d'être chrétien. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'être chrétien, cela veut dire suivre notre Seigneur Jésus, imiter son style de vie, qui comporte non seulement la charité, mais aussi la lutte contre l'injustice et le respect des êtres humains.
Le problème de la répartition des terres reste-t-il l'un des problèmes majeurs ?
Bien sûr, parce que nous n'avons jamais eu de réforme agraire. Il y a quelques années, nous avons eu un document du Conseil pontifical pour la justice qui nous a été très utile comme orientation à suivre. Ici, au Guatemala, il y a beaucoup de catholiques qui ne connaissent pas le contenu de la doctrine sociale de l'Église, même si nous cherchons à le faire connaître. Et donc, ils n'utilisent pas, ils n'appliquent pas les principes de la doctrine sociale de l'Église. Par exemple, les biens de la terre sont pour tout le monde et non pour un petit groupe de personnes.
L'urbanisation du pays, plutôt que de favoriser de meilleures conditions de vie, semble plutôt avoir fait grimper les chiffres de la violence et de la pauvreté. Pourquoi ?
Parce qu'il y a tant de jeunes qui sont nés dans des familles désintégrées, détruites, et donc ils n'ont même pas eu l'opportunité de se sentir aimés, et cela a eu pour conséquence la présence de ces groupes que nous appellerons les maras, qui sont des groupes violents. Et c'est le résultat de la pauvreté, de l'absence d'opportunités pour les jeunes, d'opportunités d'être éduqués, d'opportunités de travail. Donc pour moi, la violence la plus grande que nous subissons au Guatemala est justement cette pauvreté qui a pour conséquence ou qui produit directement ces résultats dont nous parlons.
Les plaies de la guerre civile sont-elles toujours béantes, selon vous ?
Je pense, oui, parce qu'un des signes de ces blessures non refermées est la perte de notre capacité de dialogue, de se trouver ensemble pour affronter nos problèmes. Ensuite, il y a un certain sentiment de revanche chez beaucoup de personnes qui ont souvent souffert pendant la guerre. Malgré nos efforts pour tenir un discours de réconciliation et pour appliquer cette réconciliation, nous nous rendons compte que beaucoup de blessures sont encore ouvertes. Et pour moi, cela signifie que nous, les pasteurs, nous devons vraiment chercher à promouvoir des programmes de santé mentale, parce que selon moi, il y a encore beaucoup de personnes blessées.
Mgr Ramazzini, interrogé par Xavier Sartre lors de sa visite en France cette semaine. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir parcouru avec nous une partie de l'actualité vaticane et religieuse. Pour retrouver d'autres informations, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va.